Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour pour l'interview aujourd'hui, interview que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr, le site de RDWA, ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Christophe Camps. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Christophe, tu es là aujourd'hui à la médiathèque de Die pour un spectacle, si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas. Mais entre le jeu et le spectacle, et toi, ton intervention consiste en quoi ?
Ben, c'est un spectacle de la compagnie L'Éveilleur, les oracles culinaires de Monsieur Hic, pour laquelle j'ai fait la musique. Il s'agit d'un entresort forain. Bien souvent, la musique, le spectacle se joue, je ne suis pas là, c'est-à-dire que j'ai préparé les choses, et c'est donc le comédien Christophe Guetta qui les envoie. Mais là, pour cette session, je suis venu les jouer en direct.
Donc des compositions courtes, si j'ai bien compris, qui sont spécifiques par rapport à un moment présent.
Oui, il s'agit, cette forme, les oracles culinaires de Monsieur Hic, c'est un tirage de Yiking. Donc le Yiking, c'est un vrai tirage, et c'est-à-dire qu'il y a 6 fois un tirage. Chaque tirage peut être Yin, naissant, yin, mutant, yang, naissant, yang, mutant, donc il y a 4 possibilités. On reproduit ça 6 fois, donc il faut 24 sons, séquences sonores, on va dire, différentes, et tout ça se combine et pourrait donner 4096 compositions différentes. Donc au début du projet, Christophe, on s'est dit qu'on n'allait pas faire 4096 musiques, mais plutôt jouer sur cette forme aléatoire. En plus, dans la musique, le Yiking a été utilisé par d'autres, par John Cage en particulier, qui utilisait le Yiking justement pour ses vertus de hasard, et donc pour créer des compositions comme ça, aléatoires. Donc c'est un peu le principe du Yiking qu'on a utilisé. À chaque tirage correspond un son, selon le moment du tirage, c'est le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, donc yin, yang, naissant, mutant. Et toutes ces séquences sonores sont faites pour pouvoir s'agencer entre elles et donner à chaque fois une composition différente, un yin, selon les hexagrammes qui ont été tirés. Donc le gros travail au départ, ça a été de déterminer qu'est-ce qui pouvait être un son yin ou un son yang, qu'est-ce qui pouvait être naissant ou mutant dans ces sons. Donc chaque séquence est, on va dire, une couleur sonore, un son qui évolue aussi, s'il est naissant ou mutant. Et tout ça, sur la durée du tirage, donne cette composition unique à chaque fois.
Par rapport à une détermination de ce qui est le yin et le yang, comment procédez-vous et quelle idée pourrait-on traduire de ce qu'est le yin et le yang ?
Ça, je pense que c'est très libre, mais en tous les cas, on s'est mis d'accord avec Christophe. Lui entendait des choses plutôt yin, plutôt yang. Voilà, dans cette famille de sons que j'ai proposé, parce que il y a plusieurs sets, mais là le set qu'on utilise est plutôt issu de séquences instrumentales que j'ai retravaillées, puisque moi je suis plutôt musicien électroacoustique, mais donc des modes de jeu qui sont faits principalement au violoncelle et à la guitare un peu spéciale, 12 cordes microtonales. Et bon, il y a aussi quelques autres sons, mais c'est la majorité qui donne comme ça cette espèce d'unité instrumentale. Et dans ces modes de jeu, on a déterminé des choses que nous, on trouvait plutôt yin, donc une énergie plutôt du jour, ou plutôt yang, je veux dire, une énergie du jour, ou plutôt yin, qui sont plutôt méditatives, et on laisse les choses venir. Et après, il y a les yang naissant, jeune yang ou vieillissant qui va devenir un yin. Donc trouver en tous les cas un terrain d'accord qu'à nous ça nous parle.
Vous parliez de lignes à l'instant, est-ce que ça rejoint un peu, comment on appelle ces figures qui sont présentes sur cette table ?
Ah, les hexagrammes.
Voilà, les hexagrammes qui sont des successions de lignes plus ou moins courtes ou plus ou moins longues. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez établi un alphabet de 64 sons, par exemple, ou sonorités ?
Ah, pour ce projet, oui. Parce que là on parlait de façon un peu générale. Bah, pour ce projet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a établi des yin, des yang, mutants, naissants, qui correspondent à chaque moment du tirage. Le premier qui tire, c'est l'entrée, et puis bon, il y a le ministre, l'empereur, etc. Enfin, voilà. Pour chacun de ces moments, on a quatre sons. Donc ça a été établi. Et c'est le mélange, le mixage de ces quatre sons dans l'espace qui crée un des hexagrammes. Mais en fait, là, il y en a 64 parce qu'on ne tient pas compte des mutants. Mais si on tenait compte des mutants, il y en a 64 fois 64, donc 4096 possibilités de mélange. Voilà. Mais effectivement, à chaque son, à chaque hexagramme, va correspondre une composition, un son, si on peut l'appeler comme ça, même si c'est une séquence qui dure 8 minutes à peu près, unique, voilà. Avec un pot commun de son. Voilà. Mais c'est quelque chose qui, dans la musique aléatoire, voilà, c'est pratiqué. Je parlais de John Cage tout à l'heure, mais évidemment, il y en a d'autres où l'instrumentiste est libre de jouer ça ou ça, ou alors il y a des règles. S'il a joué ça avant, alors il a plus que trois possibilités, etc. Voilà, John Cage a travaillé beaucoup pour ses compositions avec le Yi King, qui lui donnait qu'est-ce qu'il va y avoir à vrai, ce qu'on appelle la musique aléatoire, faire entrer le hasard dans la musique de façon consciente.
Jean-Christophe Kamps, vous disiez être musicien électroacousticien. Depuis quand ?
Depuis pas mal d'années. J'ai commencé par la musique instrumentale, mais voilà, depuis assez longtemps, je travaille vraiment directement avec les sons enregistrés, donc la tradition de la musique concrète, même si je ne fais pas que des pièces acousmatiques qui s'écoutent sur des haut-parleurs. Je travaille aussi beaucoup l'improvisation en direct avec des objets, avec voilà, des sons que je peux envoyer. Mais là, on peut dire que c'est une pièce fixée, même s'il y a une grande part d'aléatoire. C'est une pièce acousmatique. D'ailleurs, le dispositif du spectacle, on est dans une sorte d'immersion sonore. Les gens qui sont autour de la table, il y a quatre haut-parleurs et il y a une spatialisation vraiment des sons qui sont mouvants d'une enceinte à l'autre, qui peuvent tourner, se déplacer, vraiment créer quelque chose de sonore en 3D. Et puis la table aussi elle-même est équipée d'un sub, d'un haut-parleur, donc elle vibre. Voilà, donc c'est 5 points, mais on est comme dans ce chaudron, dans cette marmite des oracles culinaires, mais d'un point de vue sonore.
Donc vous travaillez le matériau brut qu'est le son, à partir de quel support? Là aujourd'hui vous êtes passé au numérique, je suppose, mais vous avez débuté certainement sur bande magnétique.
Tout à fait, oui, parce que je ne suis plus très jeune, j'ai connu ça. J'ai d'ailleurs toujours dans le studio un magnétophone à bande, même si je n'utilise plus vraiment pour faire du montage serré, on va dire, parce que les méthodes numériques ont quand même leurs atouts. Mais j'ai longtemps travaillé avec des magnétophones séparés en envoyant les bandes comme ça se faisait à l'époque. Maintenant, le numérique a quand même beaucoup remplacé ça, mais parfois pour certaines couleurs de son ou simplement pour réutiliser des sons que j'ai enregistrés à cette époque. Et voilà, j'ai toujours un magnétophone ou certains effets, parce que oui, il y a des choses qui sont très belles sur un magnétophone à bande. Les ralentissements sont magnifiques, les jeux manuels, l'accès manuel qu'on peut avoir en frottant une bande directement sur les têtes. Voilà, c'est des choses qu'on ne reproduit pas facilement sur un ordinateur.
Oui, il y a une part d'aller dans la manipulation du matériel analogique qu'on ne peut pas avoir vraiment sur le numérique.
Bon, on en a d'autres en numérique. Oui, c'est vrai que j'ai des souvenirs moi, très forts de mixage. Où le moment du mixage en analogique était un moment très important, parce qu'on le faisait, enfin, dans cette musique concrète, vraiment, c'était un geste. Presque on répétait son mixage, et puis il y en a, on était deux, puisque je travaillais avec Carole Rieusec, dans le duo Christophe Carole. Au moment prévu, l'autre qui mixait, couvrait, qui baissait, on pouvait manipuler les filtres en direct. Et parfois on se trompait, on n'envoyait pas le bon son au bon moment. Et finalement c'était bien. Si on avait l'écoute à dire, ah ben là finalement cette erreur elle est intéressante, on va la garder. Mais ça c'est une, je pense, dans une forme de création. Il faut parfois regarder ses erreurs et se dire que ben, c'est pas ce qu'on a prévu, mais c'est peut-être plus intéressant ou tout aussi intéressant que ce qu'on avait prévu. En numérique, il y a aussi des phénomènes où ça ne sonne pas comme ça devrait sonner, mais ce n'est pas les mêmes, parce qu'effectivement, les mixages, maintenant, on peut les automatiser, les réécouter le lendemain et changer une petite chose. Voilà, il y a une mémoire de ça. On n'est pas dans l'idée du geste tout de suite et de le C'est quelque chose qu'on peut reproduire. Mais il y a parfois la machine, le logiciel ne marche pas comme prévu, le son est transformé. Et cette transformation, finalement, elle est peut-être intéressante et on peut la garder. Il y a d'autres, c'est d'autres bugs.
Le point commun de ces deux techniques analogiques ou numériques d'aujourd'hui, c'est quand même l'électricité. Est-ce qu'au niveau de l'électricité, vous avez abordé un travail ?
Sur le son de l'électricité ou...
Oui, tout à fait. C'est peut-être une question saugrenue, mais je m'intéresse quand même à un matériau qui est de l'ordre d'un transporteur de signaux et qui permet justement de produire des sons.
Alors, c'est pas du tout une question saugrenue, puisque même au début de l'enregistrement, sous Edison, du phonographe, il y a eu déjà débat sur la reproduction mécanique, entre guillemets, acoustique, c'est-à-dire que le cylindre reproduisait directement, produisait le son dans le pavillon sans passer par l'électricité, et puis le fait de pouvoir l'amplifier et de produire par l'électricité. Et il y a déjà eu une querelle de puristes entre est-ce que c'est plus fidèle avec de l'électricité ou plus fidèle de façon acoustique. Ben, c'est évident que l'invention de l'électricité a révolutionné la musique. Le fait d'enregistrer, bon, déjà c'est une chose énorme, et puis surtout le fait de pouvoir faire des sons sans être soi-même dans l'entretien du son. C'est-à-dire que sur un violon, pour qu'un son dure une minute, il faut avoir une action sonore d'une minute. Sur un synthétiseur, pour faire un son d'une minute, il suffit d'avoir déclenché. Après, on peut le transformer, le faire évoluer, mais l'électricité fait cet entretien. Et donc, ça c'est plutôt quand on l'arrête que ça demande un effort. Donc, ça change complètement la pensée, même musicale, dans la temporalité. Ça, c'est clair. Et voilà, dans le travail, même si je ne travaille pas forcément avec des sons de l'électricité, je travaille beaucoup aussi avec des sons de synthèse ou des sons de machines, puisque dans la vie quotidienne, on a énormément de sons quotidiens qui n'existaient pas avant l'invention de l'électricité. Je pense à des climatiseurs, des moteurs, voilà, qui tournent en permanence, qui peuvent avoir des sons très intéressants. Moi, j'enregistre parfois des aérateurs, donc les gens me trouver bizarre, ils ouvrent une porte des toilettes et je suis sur un tabouret en train d'enregistrer l'extracteur parce qu'il a un problème et son m'intéresse, donc j'ai les bras en l'air dans cette machine. Et effectivement, c'est des sons qui n'existent que par l'électricité, qui n'existaient pas au 19e siècle, au 18e siècle, où les sons étaient plus ponctuels, et la musique a changé. Ça s'entend.
Mis à part Pierre Schaeffer, je pense que vous avez certainement découvert dans la jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres artistes du son qui vous ont marqué?
Oui, il y a évidemment Pierre Schaeffer par sa musique, mais surtout par son travail théorique et puis l'investissement, cette révolution musicale qu'il a suscité du fait de pouvoir faire de la musique directement avec les sons et non plus avec des signes. Il y a Pierre Henry, évidemment, pour la beauté des œuvres qu'il a pu faire. Il y a Denis Dufour, par sa musique, par la qualité de l'enseignement tout son travail de transmission très très important. Et il y a beaucoup de compositeurs de musique acousmatique que j'aime beaucoup, mais j'affectionne particulièrement Luc Ferrari, parce qu'il a amené le fait de ce que lui appelait faire rentrer la société dans la musique, c'est-à-dire faire rentrer des sons qu'il appelle anecdotique, mais qu'il ne faut pas prendre anecdotique au sens anecdote dérisoire, mais qui renvoie à une réalité du monde. Il y a des sons enregistrés dans la rue où on peut entendre des voix, des événements reconnaissables. Et moi, c'est une démarche dans laquelle je me suis engouffré, en tous les cas. Et puis aussi, lui, cette grande liberté qu'il avait de mélanger des choses qui, a priori, ne pouvaient pas se mélanger, et de faire énormément de tentatives, comme c'était permis plus facilement dans les années 70, de faire des essais, d'être moins dans les normes, et d'essayer un peu tous azimuts. Voilà, pour moi, c'est un compositeur qui compte énormément. Après, il y a beaucoup d'improvisateurs, même instrumentistes, comme Donny Glasrow, ou Fred Friis, des gens comme ça qui compte beaucoup dans la musique, et puis des cinéastes. Après, chacun, on a son petit panthéon personnel.
Oui, on a tous nos... Moi, c'est Otomo Yoshihide, par exemple.
Oui, c'est quelqu'un très très important aussi pour moi, oui, bien sûr. Mmh. Otomo.
Que j'avais vu en concert à Paris, aux Instants Chavirés. C'était un danseur autour de son instrument, de ses instruments, mmh, avec une tension extrême. C'était très physique pour lui, je pense. Et comment en êtes-vous arrivé à travailler l'électroacoustique? Vous avez commencé comme musicien, je suppose.
Oui, j'étais plutôt instrumentiste. Et puis, un jour, en écoutant un concert, auquel je suis allé par hasard à Paris, à la Maison de la Radio, au concert du GRM, parce que c'était gratuit et que à cette époque-là, j'étais j'étais curieux, j'allais écouter des orchestres, des concerts, même dans des églises, je voulais m'ouvrir un peu à plein de choses. Et je suis tombé sur ça et j'ai été fasciné de, de ce que j'ai entendu, même si là je ne pourrais pas dire quelle pièce j'ai entendu, peut-être il y avait une pièce de Parmigiani, mais voilà, il y avait plein d'haut-parleurs, le son circulait, il y avait des sons reconnaissables qui me renvoyaient à des anecdotes, donc il y avait un côté cinéma, et j'aime beaucoup le cinéma, ça m'a beaucoup parlé, des sons abstraits, ça paraissait très libre, on n'était pas dans des carrures de tempo, de trois... Donc j'ai dit, bah, c'est quand votre prochain concert? Donc c'était 3 semaines après, j'y suis retourné, et puis j'y allais à chaque fois, et puis j'ai dit, mais on peut apprendre cette musique, j'ai fait un stage qui m'a fasciné, et puis après j'ai fait une formation plus longue, puis je suis allé au conservatoire à Lyon, enfin voilà, c'est... Mais c'est vraiment par l'écoute de ça, même si petit, on m'avait offert un disque de Pierre-Henri, ça m'a sans doute marqué, mais voilà, je ne me suis pas engouffré. Mais à ce moment-là, voilà, ça réunissait mes préoccupations musicales, le côté étriqué que je trouvais de la musique instrumentale, que j'adore, hein, c'est, enfin, étriqué pour moi, enfin, j'avais envie de
Elle voilà. Est trop formatée à votre goût ?
Non, c'est pas ça, mais à ce moment, je m'y retrouvais pas forcément. J'étais dans des idées d'improvisation libre, sans connaître encore très bien l'improvisation libre. Donc voilà, puis d'entente avec des gens. Enfin, je sais pas. Ça, j'ai senti un espace de liberté, de création qui m'a surexcité, et je me suis vraiment engouffré là-dedans. J'ai rapidement essayé de me faire un petit studio pour pouvoir travailler jour et nuit. Et j'ai enregistré des sons, mixé des sons énormément. Quoi, voilà.
Vous passez énormément de temps derrière une console de travail pour agencer ces sons?
Oui, c'est même simplement les écouter. Le travail de l'écoute, pour moi, est très important. Quand on vient avec ces sons, on les écoute simplement... Bon, il y a toujours une raison pour noter qu'on a ça sur cette cassette SD ou sur cette bande DAT à l'époque. Ou, enfin bref, peu importe. Dire, voilà, il y a ça. Et bien l'écouter. Dire, ah ben tiens, à ce moment-là, entre 3 minutes 20 et 3 minutes 50, il y a un petit moment qui m'intéresse. Alors après, c'est compliqué. Il est intéressant parce qu'il y a eu des choses avant. Et en soi, il ne l'est peut-être pas, etc. Et ça, c'est très important. L'écoute, c'est le travail numéro un. Avant de se lancer vraiment dans les choses, la première chose opérante, c'est d'ouvrir grand ses oreilles.
D'y trouver des similitudes, des corrélations, des choses qui ont des liens d'ordre affectif peut-être.
Il y a tout ça. Déjà, c'est l'écoute, il y a quelque chose de... Bon, alors pour moi, effectivement, quelque chose de presque contemplatif, du plaisir. Voilà, il y a un grand plaisir d'écouter des sons. Mais c'est une façon de travailler, de faire ses gammes d'écoute, parce qu'il y a une écoute technique. Technique ne veut pas dire forcément d'aller écouter s'il y a un buzz ou machin, mais vraiment dire, ah oui, ça c'est agencé comme ça, là j'entends ça à ce moment-là, c'est ce son-là que j'entends, mais finalement la fois d'après, on va plutôt entendre autrement les choses. Donc arriver à décoder tout ça, parce que c'est pas pour soi qu'on fait les musiques, mais pour les autres. Donc ben, moi je l'ai entendu comme ça, mais je voudrais que tout le monde l'entende comme ça, et on pourrait aussi l'entendre autrement. Donc voilà, c'est un gros travail. Après, il y a... Oui, ça renvoie... dans une composition, on essaye que ça soit partagé par les autres. Ça renvoie à des choses affectives, des sensations qui peuvent être des sensations de chaleur, de froid, ou de bonheur, ou d'inquiétude, je sais pas. Et puis, il y a des choses là, plus personnelles, effectivement, où on peut écouter ces sons comme on regarderait ces photos de famille ou de vacances, voilà, où ça rappelle des souvenirs, mais là... On est bien conscient qu'on est les seuls, on les partage qu'avec soi-même. Voilà. Et là, ce n'est pas pour un travail qu'on veut partager, en tout cas.
Sigue l'écho. Imagen reflejada de lo posible y olvidado, la posibilidad y necesidad de hablar y escuchar. Sigue el eco.
Segui o eco.
Kodama ga sugu ni yatte kuru.
Oyaru do sada.
Eko bidenyo.
Zatem, credo eterna.
Mas o eco que se rompe e continua, o eco do realmente pequeno, do local e do particular, refletindo-se no eco do verdadeiramente grande, do intercontinental e do galáctico.
reconozca la existencia del otro y no se encime o intente enmudecer al otro. El eco que tome su lugar y hable su propia voz y hable la voz del otro. El eco que reproduzca el propio sonido y se abra al sonido del otro.
Basta.
Ya basta.
Ya basta.
Ya basta.
Ya basta.
Ya basta.
Una red de voces que resisten a la guerra que el poder les hace. Una red de voces que no solo hablen, también que luchen y resistan por la humanidad y contra el liberalismo. Una red de voces que nace resistiendo, reproduciendo su resistencia en otras voces todavía mudas. Una red que cubra los cinco continentes y ayude a resistir la muerte que les promete poder.
Ubwo kugari bwo bwose wibari rya ryo ryose no mu rurimi rwa rwo rwose
donna mono demo arasa ukoto to rekishi no onore no bubun o ikiri koto o keshin suru.
Já o poder não dicta mais os passos dele.
O mundo é seu, agora é teu, agora é o mundo.
Довольно лжи, довольно преступлений, довольно смерти.
Advanha o neoliberalismo, ak alibi.
Kiyemeza kurwanya akomeje ubutegetsi bw'amananiza.
Eko bunyuwanyi ndank ndank.
Comment se présente une partition de la musique concrète ou acousmatique ou électroacoustique?
Alors, en général, on ne fait pas de partition puisque le travail, justement, est non pas de passer du signe au sonore, mais de partir du sonore pour créer de la forme, une forme. Néanmoins, pour la diffuser en concert, quand je dis diffuser, c'est projeter dans l'espace, on a parfois besoin d'une sorte d'aide-mémoire. Donc c'est une partition plutôt pensée comme un aide-mémoire, comme pouvaient faire les gens dans la musique baroque, où ils connaissaient par tradition orale comment les choses se jouaient, mais qui, pour ne pas les oublier, s'ils ne les jouaient pas un certain temps, se faisait cette aide-mémoire. Donc c'est le temps qui défile en seconde, et on sait qu'à 2 minutes 20 il arrive tel événement. Alors moi je l'ai fait effectivement ayant travaillé en musique instrumentale comme ça, avec des lignes qui mentionnent le temps, que j'essaye de faire régulier, même si on n'a pas cette perception régulière. Il y a des minutes qui passent plus vite que les autres, mais en tous les cas là je fais régulièrement et je note les points de rendez-vous importants. Et on a un certain nombre de signes dont certains sont quand même partagés. Si on continue, on va plutôt faire une ligne. S'il est épais, s'il est un peu dans les graves, on va le mettre plutôt en bas et dans les aigus hauts, comme sur une portée. Si c'est plutôt des percussions, s'il y a des choses importantes. Parce qu'au moment de la diffusion, on a besoin que, à tel moment, on change de haut-parleur, on change complètement, on est dans une situation d'immersion, et puis on va être dans une frontalité, où on va faire passer les sons derrière, Donc on a besoin de ces repères très précis. C'est une partition qui est faite pour soi-même, et avec ça, personne ne pourrait la rejouer. En tous les cas, c'est un aide-mémoire, quelque chose de graphique. Il y a des gens qui font... Ça peut être très joli, si les gens ont beaucoup de crayons. Ça se présente comme ça.
Je vais revenir encore une fois sur la mémoire. Je ne sais pas, je ne connais pas toute votre œuvre, mais j'ai un CD en ma possession de Christophe Carol. Et ce sont dans Poésie Sonore, c'était des petites éditions de ce format-là, des mini-CD.
Ah, Les Travailleurs de la Nuit à l'ami des objets.
Je ne me rappelle plus du titre.
Ça, c'est un mini-CD. Ouais.
Et donc, c'était des personnes qui s'exprimaient au micro et avec une manipulation de la bande magnétique pour déformer ou amener des ambiances, des atmosphères. Et je voulais savoir, votre travail en général, c'est de transmettre ou de relayer une mémoire quelque part de ce qu'est l'humanité?
En tous les cas, moi, je ne suis pas en dehors du monde. Nous ne sommes pas avec Carole et nous sommes intéressés par ça. Comme je disais tout à l'heure de ce que disait Luc Ferrari, faire entrer la société dans la musique. Ce qui me plaît dans la musique électroacoustique, c'est que tout son est bon, il n'y a pas de hiérarchie dans les sons. C'est-à-dire que ça peut être, comme je disais, un aérateur de une VMC, ou ça peut être un son de violon joué par un des meilleurs instrumentistes, comme il y a là dans la pièce de Monsieur Hick. Ça peut être une ambiance dans la rue avec des voitures, ça peut être un pot d'échappement fendu, ça peut être des voix. Et effectivement, on mène un gros travail sur la parole enregistrée, parce que on est très marqué par le texte. Voilà, je pense que c'est des restes d'école et de collège où c'est le texte qui passerait avant, et moi je pense que c'est la voix qui passe avant. Alors c'est pas une qualité littéraire, mais dans l'oralité, dans la façon dont les gens parlent, il y a quelque chose qui m'intéresse, dans la façon dont ils s'expriment, la grammaire singulière que chacun peut avoir, mais aussi dans le timbre de sa voix, dans son débit, dans ses souffles, dans sa rythmique. Et on a beaucoup de projets où on utilise la voix enregistrée, en particulier des siestes audio-parlantes où il y a des récits de rêve, et on enregistre des gens, n'importe qui, c'est pas des poètes, c'est pas des gens de radio, c'est pas des comédiens, qui racontent leurs rêves, et leurs voix peuvent être merveilleuses, même si après, nous, on retravaille avec le ciseau, on fait de l'écriture avec le ciseau, c'est-à-dire c'est pas avec un crayon et en déplaçant des mots, mais c'est en les déplaçant en copier-coller ou dupliquer ou rallonger des silences, rajouter des hésitations ou en enlever au contraire des E, ou aller dans ce sens-là. Enfin, voilà, trouver une rythmique dans un flux qui est déjà là ou qu'on entend, qu'on perçoit à l'écoute, on se dit « Ah, là !» ou un timbre de voix qui nous plaît particulièrement. Donc, plus que transmettre, c'est penser que tout le monde peut avoir la parole. Oui, c'est pas réservé à des gens qui ont fait des études et qui ont une licence de français, et que tout le monde peut s'exprimer et qui a un charme dans ses paroles et un intérêt, en plus du charme, dont on tient compte. Voilà. C'est qu'on fait des musiques où tout le monde peut rentrer, qui sont extrêmement ouverts. Ce sont des gens qui ne pourraient pas forcément aller sur un plateau, parce que le trac, le machin fait, mais dans notre théâtre sonore, tout le monde vient sur le plateau via ses voix enregistrées.
En fait, je suis sur une grande place immense, un peu comme les places espagnoles ou italiennes. Il y a plein de places et la place est vide. Et en fait, il y a un bal, mais je crois qu'on n'est pas très nombreux à danser. Je ne sais pas s'il y a de la musique. Et en fait, il y a un homme tout habillé en noir qui vient. Il me fait danser. En fait, je m'envole. On plane un peu et on réatterrit, et puis on se repousse, et puis en fait, on danse un peu en planant, mais debout. Et on tourne.
Une porte, une fenêtre. et je l'ouvre. Et je m'avance. Tout autour, il n'y a que le ciel.
J'ai cru comprendre que vous aviez des émissions radiophoniques. Est-ce le cas ou... Et vous proposez quoi aux auditeurs ?
Alors moi, depuis de nombreuses années, je fais des émissions. Pour moi, les radios libres, c'est un phénomène très important. Voilà, j'ai fait des émissions sur Radio Libertaire. Moi, j'habitais en région parisienne. Maintenant, j'habite dans l'Hérault et donc Radio Pays d'Hérault. Voilà, je pense que ça a été... Les gens qui, à l'origine de ça, c'était pour que tout le monde puisse prendre la parole, ça rejoint ce que je disais, et que ça ne soit pas réservé à soit des spécialistes, des experts ou des mauvais animateurs comme on a sur des ondes commerciales. Je suis très attaché aux radios libres sans publicité. Et voilà. Là, par contre, c'est très clairement l'idée de partager une passion, la passion de ces musiques, qu'elles soient musique acousmatique, musique improvisée, mais pas que, hein. Puis dans le champ du jazz, du rock, ou, voilà, du documentaire sonore, de la poésie sonore. Voilà, donc je passe des choses qui, moi, que j'aime ou qui me paraissent importantes, qui sont récentes, souvent, un peu historiques, mais de l'histoire récente, et j'ai envie que des gens, par hasard, puissent l'entendre, en zappant sur la bande FM, dans leur voiture ou chez eux, entendre ça et peut-être ce qui s'est passé moi quand je suis allé à ce concert gratuit et que j'ai entendu des choses incroyables. Après, ça prend des formes différentes, ça peut être thématique, je prends une thématique que j'ai envie de creuser. Et voilà, je trouve dans ce que je connais ou ce que j'ai chez moi des choses qui sont pertinentes. Donc il y a une sorte de... J'essaie d'avoir un discours sur ces musiques. Parfois, je peux passer une pièce en entier. Je ne me limite pas à 3 minutes. Si la pièce elle dure 1h10, eh ben, je passe une pièce d'1h10 parce qu'elle a été faite pour être écoutée en entier. Parfois, il y a des gens qui viennent jouer en direct en studio ou j'ai des invités que j'interroge. Ce que vous êtes en train de faire, j'essaie de poser des questions sur leur travail, qu'ils expriment leur démarche, leur singularité. Voilà. Parfois, c'est comme je disais, des sessions live où on joue. Voilà, on fait un live à la radio. Et oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'espère que les radios libres resteront le plus possible libres.
On croise les doigts nous-mêmes. Hein. Votre émission a été en podcast ?
Oui, oui. Voilà, ça s'appelle Babel Watt sur Radio Pays d'Hérault, RPH. Voilà, et on peut l'écouter, enfin, comme font maintenant toutes les radios libres, on peut l'écouter un peu. Mais par contre, j'aime, pour des questions de disponibilité, je ne les fais pas toujours... en direct, je les fais chez moi, puis je les envoie à la radio par où voilà, par le câble, mais je préfère réellement les faire en direct, même si je bafouille, je suis obligé de me reprendre. Pour moi, il y a cette excitation d'être en direct. Je ne sais pas vraiment s'il y a des auditeurs, je suis parfois tout seul dans le studio parce que j'ai fait moi-même ma technique, mais il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. J'ai préparé avant, bien sûr, mais je... Voilà, plutôt que faire des émissions où vraiment j'ai repassé du temps à couper, à faire des enchaînements parfaits. Voilà, cette excitation du direct me plaît.
Une dernière question. Par rapport à ce flot d'images et de sons qu'aujourd'hui les médias nous inondent, et puis de la diversité sonore qui nous est... balancé aux oreilles. Je voulais savoir, est-ce que vous avez travaillé sur le silence ?
Ah bah forcément. En musique, le silence est un critère tout aussi important. Oui, bien sûr, on a fait des pièces qui jouent sur ça, où il y a, soit il y a très très peu d'événements, soit les événements sont extrêmement espacés. Oui, oui, le silence, c'est comme du bruit. Enfin, c'en est un parmi les autres, quoi. Mais il a cette singularité qui crée soit un vide, soit une attente. Et puis, de toute façon, un concert, ça commence par un petit moment de silence. En général, le public arrête de faire du bruit et puis on peut commencer.
Interview. 1. Terre.
Hey, the bird.